Chapitre 6, le salon Schwarz. Il y a des millions qui fréquentent le très grand monde. C'est un peu l'exception. Généralement, le très grand monde est une cité murée. On y naît et le million l'attire chez lui avec peine. C'est un monde à part qui fréquente le salon Schwarz. Ce n'est peut-être pas même un monde, car l'élément féminin fait le monde, et les femmes manquent un peu chez Jean-Baptiste Schwarz, qu'il soit ou non baron. À la voix et garçon, Savinien Larsin a épousé une vieille comédienne qui est dangereuse à produire, Cabiron est veuf, Cotentin de la lourde ville a son ménage en Normandie, le vicomte des Glaieux est séparé de Corée de Bien, Touban seul amène Madame Touban, une personne bien née, envieuse, douceâtre et méchante. On ne rencontre pas partout un Marseillais obèse et pesant franchement 237 livres avant le dîner. C'est donc avec orgueil que nous présentons à la voix à nos dames. Il était aimable et avait le cœur sur la main. Il transpirait toujours. Il plaçait les idées industrielles et se connaissait en terrain. Cabiron lançait des affaires. Le vicomte Honoré Giscard des Glaieux descendait de haut, c'était son gagne-pain. Il avait 14 maisons qui montaient de bas, 6, 7 déjeuners et 7 dîners par semaine. Touban était chimiste d'affaires, Madame Touban avait un avis en littérature. Cotentin de la lourde ville avait fait ça et ça depuis le temps, tour à tour député, journaliste et présentement avocat d'affaires. Chez M. Schwarz, tout était d'affaires, jusqu'au vaudeville, dans la personne pointue de Savinien Larsin, jusqu'à l'art sacré, jusqu'à la sainte poésie, sous la fade espèce de sensitive. Savinien était un jeune homme. Cotentin, doyen, avait maintenant des cheveux blancs. Les autres tournaient autour de la quarantaine, comme M. Schwarz lui-même. Madame Touban n'avait jamais eu d'âge. Restait enfin un couple maigre, jaune, triste, humble et décent, monsieur et madame Eliassin Schwarz. Nous avons connu le mari à Caen, factotum d'un autre ménage Schwarz. Eliassin, marié, avait été pris en grippe par la femme de l'ancien commissaire de police, devenu chef de division à la préfecture. Monsieur et madame Eliassin, personne modeste, étaient chargés de faire les honneurs, en second, au château de Bois-Renault. Rien de ce qu'on est convenu d'appeler le drame n'apparaissait dans cette maison opulente, tranquille et bourgeoisement gaie. La baronne avait un passé romanesque, mais ce passé, prescrit par le temps, semblait en outre noyé dans l'oubli profond. Cette belle jeune fille, Edmé Leber, partait pour l'Amérique. Nous l'avions vue, Edmé, glisser parmi ses tranquillités vulgaires comme une fugitive et impuissante menace, montrant le bout d'oreille d'un mystère. En dehors de cette mince intrigue, tout était uni comme une glace. Monsieur Schwarz, Madame Schwarz, la jolie blanche et leurs convives formaient une de ces 1000 réunions comme on en voit chaque jour, à chaque pas. Une réunion qui, tout en gardant sa dose voulue d'excentricité, ressemble en gros à toutes les autres, où l'on vit bonnement leur présente, sans trouble de la ville, sans souci du lendemain, mis à part bien entendu les affaires, sang des veines de ce peuple et souffle de son âme. Le mariage de la fille de la maison, lui-même avec ce fameux monsieur Lecoq, était une affaire, plus ou moins convenante. Elle présentait des profits et des pertes, plus ou moins discutables. Mais c'était, ou cela semblait être, une affaire entendue, réglée, qui ne portait pas avec elle une bien forte dose d'émotion. L'opulence a des misères cachées. Derrière tout cet éclat, l'ignorance peut-être, l'envie, veulent deviner l'angoisse, et comme ce hardi romancier, qui s'appelle tout le monde, n'y va pas par 4 chemins, il traduira le mot « angoisse » trop amplement par des mots qui disent plus, qui saisissent mieux, et le voile soulevé par sa main vous montrera du sang avec des larmes. Chez monsieur le baron Schwartz, par exemple, avec la meilleure volonté du monde, l'observateur le plus subtil n'eût pas découvert le moindre symptôme sanglant, ni le plus léger prétexte à l'arme. Et cependant, il y avait quelque chose. Quoi donc? Des bagatelles, quelques petites cachotteries, qu'on ne s'attende surtout à rien de sérieux. Premièrement, après le potage, madame Sicard, la camériste, parla bas à notre petite Blanche, qui rougit et sourit. Deuxièmement, un peu plus tard, Domergue s'approcha de madame la baronne et lui rendit compte à voix haute d'un ordre exécuté. La baronne ayant dit « c'est bien », Domergue, en se retirant, laissa tomber cette phrase « il fera jour demain ». Et ce terrible mot d'ordre n'altéra en rien la sérénité de la charmante femme. Troisièmement, à peu près au même instant, M. Schwartz, qui enveloppait la baronne d'un regard maritalement admiratif mais un peu inquiet, fit signe aux puissantes à la voix qui mangeaient avec conscience, étalant l'heureuse rotondité d'un ventre à la financière. Le signe était sans doute convenu, car à la voix posa brusquement sa fourchette et dit en homme qui tout à coup est frappé par un souvenir « C'est particulier, oui, bon, j'allais oublier de vous rappeler l'affaire d'Endurant pour ce soir. »« Bien, bien, » fit simplement l'illustre banquier. « Si vous manquiez, » insista à la voix. « Pointez sur carnet, » interrompit M. Schwartz, « tant pour tout. » Monsieur le baron, du reste, n'en perdit pas un coup de dent. Vers le dessert, il reprit, en s'adressant à sa femme, « Profitez de l'affaire d'Endurant, un petit tour à l'opéra, non, fatigué, bien, liberté. » Malgré la belle concision de son style, monsieur le baron trouvait moyen de faire les demandes et les réponses. Il appela Domergue. « Le coupé, retour de bonne heure, » ajouta-t-il. La baronne échangea un regard avec le grave valet. Enfin, quatrième et dernier détail, comme on servait le café, monsieur le baron demanda tout à coup, en regardant sa femme fixement, « À propos, Giovanna, ceci doit être à vous. » Il avait entre l'index et le pouce une jolie petite clé qu'il montrait à sa femme. Madame Schwartz regarda, sourit et répondit, « Je la cherchais, c'est la clé de mon tiroir du milieu. » « Comique, » dit le baron. Il donna la clé à madame Touban, qui la passa à des glaïeux, et madame Schwartz la reçut des mains du dandy à la voix. Elle la déposa sur la nappe, sans trouble apparent. Autour de la table, l'entretien allait et venait. On eût fait tout un journal d'esprit, avec les choses charmantes que Savinien Larsin récitait par cœur. Ces gais vaudevillistes sont bien utiles à la campagne. Au bout de quelques instants, la clé semblait oubliée. Personne, assurément, ne remarqua deux ou trois gouttelettes de sueur qui perlèrent à la naissance des beaux cheveux de madame la baronne. Il faisait chaud, cela pâlit certains visages. Madame la baronne était très pâle parmi l'éblouissant épanouissement de son sourire. Sur la table, au moment où la clé la touchait, un tout petit objet avait adhéré à la nappe, faisant à sa blancheur une tache imperceptible. Un rien, figurez-vous, un grain de poussière, un atome. Madame la baronne, qui n'avait pas même accordé un regard à la clé, s'était-elle aperçue que cet atome était de la cire? Savait-elle seulement qu'avec de la cire, on peut prendre l'empreinte d'une clé? Certains prétendent que les dames n'ont pas besoin de regarder pour voir et que, sans avoir rien appris, elles savent toutes choses. Comme on se levait de table, madame la baronne trouva moyen de dire à Domergue « Il faut que j'aille à Paris ce soir ». À part ces futiles cachotteries, néant, la maison Schwartz était l'asile d'une paix profonde. Edmé Leber avait pris, en sortant du château de Bois-Renaud, le chemin qui traverse la plaine et gagne le bois pour remonter à Montfermeil. Cette route longeait le Saut de Loup, l'espace d'une centaine de pas, à cause d'un angle saillant qui existait dans le tracé du parc. Aux dernières lueurs du crépuscule, Edmé crut distinguer une forme bizarre qui se glissait parmi les buissons de l'autre côté du chemin. Nous n'avons pas dit une forme humaine, c'était comme un reptile à tête d'homme, et la jeune fille crut d'autant mieux à cette vision qu'elle avait vu déjà aujourd'hui dans son panier, traînée par un chien de boucher, cette misérable créature, moitié mendiant, moitié commissionnaire, que sa hideuse infirmité rendait célèbre dans tout le quartier Saint-Martin. La maison de la rue Notre-Dame de Nazareth, où logeait Edmé, donnait par derrière sur la cour du Plat d'Étain. Bien souvent, elle avait pu voir trois pattes dans l'exercice de sa pauvre industrie. Pendant qu'elle était malade et faible d'esprit, l'aspect de trois pattes lui inspirait une compassion mêlée de terreur. Plus d'une fois, et comme malgré elle, Edmé avait passé des heures entières à le regarder, manœuvrant la partie paralysée de son corps et accomplissant avec son torse et ses bras des actes de véritable vigueur. Pour Edmé, ce reptile à tête d'homme, deviné plutôt qu'aperçu dans l'ombre de la route, était l'estropié du Plat d'Étain. L'idée ne tint pas, cependant, car comment supposer que trois pattes pût rôder dans ces lieux déserts sans attelage? Et pourquoi à cette heure où il ne quittait jamais son poste de la cour des messageries? En ce moment, le chien de boucher devait galoper vers Paris. Edmé avait l'esprit plein autant que le cœur au sortir de cette maison où elle venait de tenter une épreuve décisive pour elle. Néanmoins, ce n'était qu'une jeune fille, et la nuit porte avec soi des épouvantes. Quand Edmé passa devant les buissons où la vision s'était évanouie, son regard inquiet les interrogea. Elle ne vit rien. Elle poursuivit sa route sans plus songer à cet incident. Sa route était longue et traversait une campagne déserte, longue pour aller jusqu'à Livry par la forêt, bien plus longue, hélas, pour aller jusqu'à Paris. Or, depuis que le diamant n'était plus dans la bourse d'Edmé, sa bourse était vide. Edmé avait donné sa dernière pièce d'argent au contrôle du bureau-poste. Edmé, qui venait de refuser si fièrement l'aide de Madame Schwartz, Edmé qui avait déposé sur la console du salon de la baronne, et malgré elle, un bijou perdu que non seulement celle-ci ne réclamait pas, mais qu'elle déclarait formellement ne point lui appartenir, Edmé n'avait pas de quoi prendre la voiture de Livry à Paris. Que lui importait cela? Elle se sentait forte. La fièvre en ce moment l'exaltait comme une ivresse. Il lui semblait tout simple d'entreprendre ce voyage de Saint-Lieu. La distance eût-elle été double, que lui eût importé encore? Son sein battait, sa tête brûlait. Devant ses yeux, de larges éblouissements passaient, mais elle se sentait forte. « Je sais tout ce que je voulais savoir, » pensait-elle. « Me voilà guérie, bien guérie. Je n'aime plus. Croirait-on qu'il soit si facile de ne plus aimer ?» C'était comme pour la route, elle défiait l'amour au même titre que la fatigue, mais à son insu, sa poitrine laissait échapper des sanglots et son pas chancelait. Elle atteignit pourtant la lisière de la forêt où le chemin s'engageait brusquement sous une épaisse voûte de feuillage. Au bout de quelques pas, la nuit devint si noire qu'on avait peine à distinguer les objets. Edmé n'avançait presque plus, quoiqu'elle se dît toujours « je marche, je marche ». Il faisait nuit dans son cerveau comme au dehors. Elle n'avait pas conscience de sa faiblesse qui garrottait ses mouvements comme un lien. Elle s'arrêta au pied d'un arbre et mit son front contre l'écorce en murmurant « il faut marcher, je marche ». Un bruit sortait du fourré, mais pouvait-elle prendre garde? Un grand bourdonnement était autour de ses oreilles et le souffle lui manquait. Ses jambes se dérobèrent sous elle lentement. Elle s'affaissa au pied de l'arbre, pensant encore « je marche, je marche ». À ces heures qui ressemblent si bien à l'agonie, on a d'étranges rêves. La vision revenait. Au lieu de toucher terre, Edmé rencontra deux bras qui la soutinrent doucement, et ses yeux, avant de se fermer, distinguèrent vaguement dans les ténèbres cette silhouette hideuse. L'homme reptile, trois pattes, le mendiant de la cour du Plat d'Étain.